Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Wheel of Series, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur Wheel of Cinéma. Et c'est l'heure, le jour, le mois de votre émission avec invité prestige, envoyé cotillon, paillettes, Ferrero Rocher, car vient nous rejoindre aujourd'hui mieux que le Messi, Lady Chatalere, puisqu'on parle ici de série, hein, celle qu'on vous conseille plus que vivement d'aller voir sur scène dans son fantastique spectacle. Le temps de vivre, reprise... on l'espère, du 28 au 31 décembre au Grand Saint-Martin. Ronan, please, s'il te plaît, tu nous chantes le jingle au frais de la culture.
Invité prestige
au frais de la culture.
Ferrero Rocher.
La merveilleuse Camille Chamou.
On l'adore.
Je suis trop content qu'il y ait Camille Chamou.
Et donc, mon chanteur préféré, mon Ross Matthews, mon Ross Geller, mes bottes de cuir quand je suis chapeau melon. Bonne intro.
Salut Charline.
Et bah, Wheel of Series, c'est parti. Et c'est notre invité qui assure la programmation et Camille a choisi la série de type Uppercut, signée Michaela Coel, I May Destroy You, disponible sur OCS, l'histoire d'Arabella, une jeune autrice londonienne qui connaît un certain succès et qui, lors d'une soirée arrosée en boîte de nuit, est droguée par un inconnu et se réveille sans souvenir. Dès lors, Arabella va tout faire pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là.
Where is my shot glass? Can't you see I'm drinking shots? Where is my shot glass? Can't you see I'm drinking shots?
Just smashed your phone.
I don't know. So, where'd you get that?
I just wanted to know how did last night end?
I've got this thing in my head of like this guy.
Because now you're calling it something that I never.
How are you doing?
I'm great as long as I'm around people. I did to, you know, just gather the pieces, any of the pieces.
Avant d'entrer dans le vif, très vif du sujet, Renan, je te laisse poser les trigger warnings.
C'est pas la série la plus joyeuse du monde, hein, on va être très clair. Je sais pas comment, Camille, vous l'avez regardée, si vous l'avez regardée en confinement ou pas. On est sur une série violente, une série I May Destroy You, le You peut être aussi le public, hein, c'est-à-dire que... Ouais. Mais c'est d'une puissance et d'une beauté folle.
Oui, exactement.
Alors Camille, pourquoi cette série ?
Alors d'abord, c'est vrai que c'est une série dont le thème est la violence. La série elle-même, je dirais pas qu'elle n'est que violente. Mais par contre, la façon dont elle raconte comment la violence se répercute d'un être à un autre, comment les rapports de violence sont des vases communicants permanents dans la société en général et comment toujours quelqu'un est l'oppresseur de quelqu'un d'autre et la victime d'une tierce personne. Ça, j'avais jamais vu ce thème traité de cette manière-là. Parce que beaucoup de gens disent c'est sur le viol, etc. Mais c'est bien au-delà de ça, à mon avis. C'est sur la violence urbaine contemporaine. Et il y a un truc, en plus, dans la volonté enragée de kiffer.
Ouais.
Que moi, ça peut me faire pleurer, vraiment. C'est-à-dire que je suis là, genre... En plus, en ce moment, enfin, après cette année de confinement, de machin, des trucs, c'est un truc qui est extrêmement bien retranscrit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans la série, c'est que... C'est kiffer jusqu'à la mort. Donc vraiment, quel que soit le danger, quel que soit le... Il y a un truc un peu dépente là-dedans, je sais pas comment dire, un peu... Voilà,
on adorait qu'elles se rencontrent toutes les deux, Michaela Coel et Virginie Despentes, je pense qu'elles ont plein de choses à se dire.
Ouais, c'est certain. Et en fait, il y a quelque chose où moi, je me suis énormément reconnue dans cette façon de vouloir vivre à tout... D'abord, balayer, ce qui est hyper bien fait dans la série, c'est comment elle balaye le drame. Et après, évidemment, on ne peut pas balayer le drame, on ne peut pas le dégager d'une pichenette de la main, mais en fait, c'est la volonté de tenter à la fois de résoudre cet événement traumatique, enfin, cette succession de traumas, disons qu'elle a vécu depuis son enfance, et aussi de continuer à mener la vie libre qu'elle souhaite exercer.
Et ça, c'est très fort.
C'est hyper fort. C'est hyper fort.
Mais alors, ceci dit, ce choix ne m'étonne guère, alors qu'on se connaît assez peu, mais je suis allée vous voir sur scène et il se trouve que certains des sujets abordés dans la série le sont un peu, d'une certaine manière aussi, dans votre spectacle, par un prisme totalement différent, on est d'accord.
On
mais
se la marre quand même, je faut dire, mais... Camille Jamou, on se marre.
Non mais c'est assez surprenant de voir le traitement, c'est-à-dire que ce soit le regard d'autrui, la toxicité des réseaux sociaux, la notion de consentement, l'empowerment.
Le choc des générations.
C'est des sujets qui vous sont chers aussi.
C'est complètement des sujets qui me sont chers, et en plus, quand je dis, alors j'espère qu'on se marre le plus possible dans mon spectacle, et j'espère, inchallah, que si le repris du 28 au 31, vous verrez qu'on terminera l'année en beauté, en fiction surtout, parce qu'on ne fait plus du tout de la réalité, et en rigolant. Mais c'est vrai que dans la série de Michaela Cullen aussi, je trouve qu'il y a des choses très très drôles. C'est ça que je trouve dingue, c'est qu'il y a des passages qui sont hyper...
Elle déconstruit tout, hein, quand
aiguë,
même.
Aiguë, et ouais, mais dans la vie de tous les jours, la façon dont la vraie vie est retranscrite... Moi, je me souviens qu'il y a des années, quand j'ai écrit un long métrage qui s'appelait Les Gazelles.
Mais oui, j'allais en parler. C'est très proche.
En fait, pour moi, j'ai retrouvé, mais je me suis limite dit. Enfin, j'adorerais qu'elle l'ait vu. Mais vraiment, je me suis dit, il y a un truc en commun dans cette espèce de volonté de raconter les coulisses de la vie. Ce qui n'arrive pas, et particulièrement pour les héroïnes féminines, où on raconte de toute façon assez peu les coulisses de la vie. Les vraies coulisses, parce qu'elles sont censées être ce à quoi on veut échapper dans la mentalité, en tout cas des diffuseurs, dans une série. Mais en fait, quand c'est radical, quand c'est présenté avec le caractère à la fois aride et pathétiquement comique, cette espèce de merde quotidienne qui s'accumule, cette façon de gérer le speed, la folie de nos agendas débiles, de gens qui veulent juste courir après quelque chose, et tout ça. Et évacuer, et vraiment ne jamais regarder les choses importantes trop longtemps en face. Ça, moi, j'ai trouvé que c'était retranscrit avec une puissance dingue. Quoi.
Mais alors, corrige-moi, Renan. Enfin,
jamais.
Mais Michaela Cullen dit qu'elle a mis très longtemps à écrire les 12 épisodes de la série.
Oui.
Elle s'est basée sur une agression qu'elle a vécue, mais que ça a été très long,
et
l'accouchement en écriture.
C'est une autrice assez passionnante. Elle avait fait une première série qui s'appelait Chewing Gum.
Que j'ai pas vue.
Qui est une sorte de brouillon, quelque part, de I May Destroy You, qui était beaucoup plus comique, beaucoup plus burlesque, parce qu'il faut dire qu'elle a un physique très particulier, Michaela Cullen, et qu'elle joue beaucoup avec ça. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose presque de la comédie burlesque, du clown. Et dans I May Destroy You, elle utilise ça, elle utilise cette façon de jouer avec son corps dans des situations qui ne sont pas du tout des situations comiques. Ce qui fait qu'il y a des moments où dans la série, on ne sait pas effectivement si la scène, elle est totalement pathétique, tragique, ou si tout d'un coup, elle devient hyper drôle. Et c'est ça qu'elle arrive, à mon avis, à synthétiser, c'est que cette destruction qui est le sujet de la série, c'est-à-dire à la fois la destruction d'elle-même, la destruction de ses amis, parce que, comme expliquait Camille, la violence se répercute autour d'elle. Au fond, c'est aussi une tentative de se recomposer à l'écran. Et c'est très beau. Et moi, j'ai beaucoup pensé, ça va faire très intello-chic dans cette émission, moi, à Marguerite Duras, en fait, en voyant I May Destroy You, parce qu'il y a ce côté de l'écriture de Marguerite Duras, c'est-à-dire qui construit et déconstruit en même temps, qui répercute, en fait, une sorte de... Alors, moi, je suis très mal placé pour dire ça, mais en fait, quand je vois I May Destroy You, je me dis, c'est donc ça, l'altérité féminine, c'est donc ça, être une femme aujourd'hui. Alors, évidemment, ça ne s'entend peut-être pas, mais je ne suis pas une femme. Mais quand je vois, en fait, ça à l'écran, ça me fait une expérience très particulière. Moi, c'est une série qui m'a fait beaucoup de mal, I May Destroy You, qui m'a vraiment physiquement, j'ai eu du mal à enchaîner les épisodes. Il y avait quelque chose de
alors,
très...
Alors, c'est incroyable, parce que moi, ça m'a fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai
regardé pourtant,
les trois premiers... Mais oui, mais c'est ça qui est fou. Et le sait-on vraiment.
Oui, c'est vrai.
Moi, hier, je me suis fait petite fille, l'unitaire...
Sébastien
Hufschitz, qui est absolument magnifique. Et hyper questionnant sur tous ces thèmes. Et après, j'ai revu, parce que je savais qu'on allait se voir, les trois derniers.
Ah oui.
Et je vous assure qu'en enchaînant les trucs, à la fin, tu te dis, mais... c'est ça qui est extraordinaire aussi quand tu vois I May Destroy You. Et c'est que ce que je voudrais... c'est pour ça que je voudrais inciter tout le monde à voir le truc. C'est que c'est une série difficile à consommer. Parce que alors, il y a des passages géniaux, hyper drôles, parce que vous reconnaissez exactement des scènes, je vous dis, d'humiliation, de folie, de rigolade, de fête, les anniversaires, les machins, les sorties en boîte, la drogue. Il y a des choses qui sont évoquées, en fait, avec une crudité rare, mais une crudité drôle, vraiment marrante, quoi. Et puis la façon dont ça revient comme un boomerang et dont certains aspects de ce kiff ultime, là, ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de rage de kiffer, peut revenir comme un boomerang dans la tête de cette génération, elle est géniale, quoi. Mais moi, j'ai eu, comme toi, beaucoup de mal à enchaîner les trucs et j'étais physiquement hyper troublée. Non, mais attends, moi j'avais... ça m'a effectivement hypercute était le bon terme. Et puis il y a un truc qu'on a entendu tout à l'heure en écoutant la petite bande annonce. La voix de Michaela est très particulière. Elle a un grain extrêmement particulier. Elle est accidentée. Son physique et sa voix sont accidentées.
Et c'est une série accidentée.
C'est une série hyper accidentée.
Non, mais c'est aussi en ça qu'elle est très singulière. Et vous le disiez, Camille, c'est qu'on a tellement maintenant l'habitude de séries à binger.
Ouais.
Que d'avoir une série qui est vraiment par nature imbingeable. Ouais, moi, je mets au défi quiconque. Enfin, ou alors, il faut vraiment. Bon,
parce qu'elle déconstruit. Très enfant,
mais mais deux à la suite, déjà, c'est.
Mais carrément. Et ce qui est dingue, c'est qu'en plus, c'est des épisodes de 26 minutes. Donc, ils sont très courts. Moi, le premier, j'ai dit waouh, ça passe super vite. C'est dingue.
Allez, on y va.
Le pilote est complètement ouf. Il est génial. Et le deuxième, j'ai fait ah, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Donc, grosse claquasse. Et en fait, il y en a 12, ce qui est énorme. C'est vraiment une somme, en fait.
Ouais. Et en plus, elle se permet des choses dans la narration. Il y a des moments où on pense être dans le récit qui avance. D'un coup, elle repart en arrière, flashback. Et on est là, attends, mais de quoi elle me parle? Pourquoi elle me parle de son voyage en Italie? C'est quoi? Et puis, tout d'un coup, tout se recompose. C'est pour ça que moi, vraiment, je pensais à Duras, c'est-à-dire l'idée du fragment. Et comment, tout d'un coup, quand on se recule, on voit toute l'écriture en fait de ce personnage et aussi c'est aussi une série sur comment on s'écrit en tant que personne puisque elle est censée écrire.
Moi, c'est ça qui m'a vraiment profondément bouleversée, mais dans un sens positif, bouleversée, émue, mais au-delà de l'émotion, qui m'a réconciliée avec quelque chose dans cette année, je trouve, qui nous a beaucoup fragmenté justement en tant qu'individu et en tant que société. On a du mal à recréer du lien avec le collectif. Enfin, c'est un truc très compliqué parce qu'on se rend compte que quand il n'y a plus la culture, c'est très compliqué et la bouffe. C'est très l'alcool. Bon, allez, on dit la vérité.
Bon, on l'a fait. Allez.
Bon, ok, quand il n'y a plus, bon, c'est compliqué de renouer avec le collectif. Et ben moi, il y a une scène qui, je ne spoil rien. Il y a une séquence qui m'a extrêmement marquée. À la fin, en fait, elle essaye, depuis le début, d'écrire un livre. Et puis, par l'aide de quelqu'un dont on ne dira rien, à la fin, elle fait ses post-it. Alors, n'importe quel auditeur qui a déjà essayé d'écrire un scénario ou bien un roman ou bien n'importe quoi a peut-être déjà été confronté.
Même un texto.
Même un texto. Un texto super long. Ouais, un roman épistolaire. A déjà été confrontée à cette méthode des post-it qui est que tu mets en gros une scène ou une idée par post-it et puis tu les agences pour pouvoir faire comme un montage sur ton mur. Et en fait, quand elle pendant de longues minutes, elle essaye face à son mur de repositionner ses post-it, elle raconte que nous ne sommes que la somme de moments vécus avec d'autres, des moments atroces, des moments géniaux, mais qu'en fait, c'est une question de kaléidoscope.
Ouais.
Et qu'en fait, ça dépend de comment tu le vois. Quel est ton prisme sur ça? Pour considérer que c'est traumatique ou que c'est sublime. Et ça, je trouve que c'est même pas dit comme ça. Mais c'est ce que ça évoque, en fait. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a évoqué en voyant ce truc. Je me suis dit, mais en fait, ce n'est qu'une histoire de point de vue. Les événements les pires qui peuvent arriver, toute proportion gardée, mais je veux dire, il n'y a pas une personne ne vit a priori une succession exhaustive et exclusive d'événements traumatiques.
Bien sûr.
Il y a toujours quelques événements, je veux dire, bon, au milieu qui sont plus légers ou des moments. Et ben en fait, c'est une question de regard et elle rachète toute sa vie par le regard.
Série, voilà. C'est ce qu'elle fait parce que on pourrait dire le pitch de la série. On pourrait donner quelque chose de très misérabiliste. Et tout d'un coup, c'est vraiment. Il y a quelque chose qui m'a. Il y a une phrase moi, qui me terrifie dans la vie qui est. C'est une phrase que me dit souvent ma mère. Je parle rarement de ma mère dans cette émission. Qui est que.
Bisous, Evelyne.
Oui, c'est vrai que tu connais ma mère. Dans la vie, on s'habitue à tout.
Oui.
Et c'est ça qui est terrible. Et la série raconte ça aussi. C'est-à-dire qu'au fond, le plus terrible, c'est qu'elle s'habitue à cette violence-là. Et que cette violence devient un système. Et la série, elle raconte ça avec un ton presque un peu candide par moment. Et tout d'un coup, cette candeur se retourne contre le spectateur. Évidemment que moi la scène de viol, enfin, sans trop spoiler, il y a un autre viol à un moment, il y en a même plusieurs, mais il y a une scène de viol avec son meilleur ami. La scène est terriblement violente.
Elle est atroce. Mais en même temps, tout ce fil est hyper intéressant. Parce que, en fait, il y a de la violence partout, physique ou psychologique. Et toutes les victimes deviennent à un moment donné des oppresseurs.
Et le format série fait que petit à petit, on se met à s'habituer à ce système.
Ouais,
et ça nous interroge. Et on parlait physiquement de l'effet que l'a produit la série. C'est ça, c'est que tout d'un coup, physiquement, la série nous déconstruit le récit, déconstruit nos rapports aux personnages. C'est très, très fort. On peut le dire, c'est l'une des plus grandes séries de l'année, si ce n'est la plus grande série de l'année. Mais il y a quelque chose dans son écriture qu'elle pose sur la table comme un geste, en fait. Et c'est un geste de série. C'est pas un geste de film.
Moi, ça m'a fait le même effet que Fleabag saison 2.
Ben oui.
C'est-à-dire que par rapport à... Alors, j'ai énormément aimé deux choses cette année. C'est vraiment une grande année pour moi. Non, mais c'est vrai, on en même temps, on a eu que ça à foutre, tu vas me dire, mais bon. Heureusement que j'ai vu pas mal de séries, mais enfin bon. Non, mais j'ai revu Two Better Things, qui est une héroïne que j'adore. C'est ma passion. J'ai vu, évidemment, This Way Up récemment. Et pareil, l'incarnation, la fille est fantastique. Et voilà. Mais ce sont des séries qui sont relativement chroniques et qui font... dans This Way Up, il y a un petit trauma qui est effectivement la rupture et sa dépression. Mais en fait, c'est une fille super... Enfin, finalement, on ne va pas chercher la noirceur partout. Et d'ailleurs, tant mieux, c'est aussi des séries qui se consomment avec une notion des dialogues brillants, du divertissement et ça.
Et Tobias Menzies, qui est très beau.
Oui, ça, on peut vraiment consommer ça avec passion.
Voilà.
C'est vrai.
Voilà.
Mais ce qu'il y a de prodigieux, c'est comme dans Fleabag saison 2, ce qu'il y a de prodigieux dans I May Destroy You, c'est qu'en fait, elle y va avec les deux mains dans la merde qui peut vraiment... Non, mais dans la merde, dans l'horreur qui peut... Et puis, on a tellement peur de la violence, du viol, on a tellement peur d'être détraumatisé. En fait, on veut tellement éviter ça. Et puis, on a tellement une injonction de bonheur ou de kiff tout le temps. Enfin, je veux dire, franchement, pendant le confinement, pendant 3 semaines, t'avais quand même essentiellement des vidéos de gens qui expliquaient à quel point c'était cool de faire pousser des tomates, quoi.
Et en fait, moi, je faisais pousser des paquets de chips, globalement.
C'est ce que je veux dire, c'est que... Mais moi, la première, on a tellement envie de voir tout en truc et tout. Bon... je trouve qu'une série qui traite ça et qui essaie de le faire avec humour et tout, et qui dit, mais en fait, derrière chaque fille de 30 ans, urbaine, ultra cool, etc., il y a potentiellement une traumatisée. Derrière chaque mec, machin, il y a potentiellement machin. Mais également, derrière chaque traumatisé, il y a quelqu'un de super marrant qui fait des vannes et machin. C'est dans les deux sens, en fait. Et ça, je trouve que il y a une vérité très crue et très, très puissante.
Et alors, Renan, tu disais un des chefs-d'œuvre de l'année, mais sauf erreur, et encore une fois, corrige-moi, j'adore ça. Zéro nomination pour zéro cérémonie, so far. Alors, est-ce que c'est parce que ça bascule sur l'année prochaine?
Je pense que ça bascule sur l'année prochaine. Ça a été vraiment...
Parce que ça veut dire que ça a été perçu comme extrêmement mal aimable. Alors, on a parlé du Percut, mais la série est quand même passionnante. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais...
La série, alors, ça a été vraiment une reconnaissance... C'est compliqué, la diffusion est un peu compliquée, parce que la diffusion en Angleterre et la diffusion aux États-Unis, c'était pas exactement au même moment, sur les mêmes canaux, ça fonctionnait pas de la même manière, bref. Mais les États-Unis se sont pris Michaela Cole comme Phoebe Waller-Bridge en pleine tête. Il faut pas oublier quand même que Phoebe Waller-Bridge, elle a été vraiment récompensée pour Fleabag en saison 2 uniquement, et que la première saison était un petit objet passé un peu...
Mais la saison 2 était brillantissime par rapport 2, à la saison 1.
La saison 2, c'est un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, cette génération Phoebe Waller-Bridge qui est en train d'apparaître.
Et des autrices passionnantes.
Hallucinantes. Michaela Cole, elle existait. Ouais. Chewing Gum, je crois que ça correspond quasiment au même moment que la première saison de Fleabag. Et puis là, I May Destroy You, qui est vraiment son chef-d'œuvre, c'est aussi la marque de voix différentes, en fait.
Ouais. Ah, mais d'ailleurs, il y a un truc qu'on ne dit pas. C'est que dans I May Destroy You, c'est vraiment un Londres, c'est afro-british.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Il n'y a quasiment que des personnes noires, quasiment. Ouais. Et en fait, tu ne te poses... Moi, vraiment, au bout de quelques épisodes, je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a très peu de blancs dans la série. Mais tu n'en as mais rien à foutre. C'est-à-dire que cette espèce d'idée comme quoi chaque série, qui est un peu, à mon avis, pardon si vous nous écoutez, mais un peu, à mon avis, la tendance de Netflix de dire pour chaque personne, pour chaque communauté, il faut avoir un truc
un
qui lui ressemble.
Ouais.
Parce que si ça ne te ressemble pas, tu ne t'identifieras pas et tu n'iras pas être le marché idoine de cette cible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et eh bien, en fait, c'est complètement faux. Parce que, c'est les thèmes transversaux qui nous rapprochent. C'est pas la communauté, c'est pas les machins. Parce qu'elle, elle définit d'ailleurs hyper bien, puis elle parle énormément des problèmes de communauté, d'être une de racisme, d'être une noire qui veut être une anglaise absolument comme les autres et en même temps totalement différente des autres. Et c'est hyper beau, il y a cette scène où elle dit « je suis pas afro-caribéenne » chez le médecin, elle lui dit « afro-caribéen ?» Non mais vous êtes complètement ignorant en fait, l'Afrique et les Caraïbes ça n'a absolument rien à voir et tout. Et le médecin, il a genre, pardon c'est un terme scientifique en fait, dans nos études de médecine on dit « afro-caribéen » et elle dit « mais afro-caribéen n'existe pas en fait ». C'est, et en fait, je me disais, ouais. Mais c'est vrai que c'est totalement insensé. On invente des thèmes qui regroupent des endroits du monde différents pour regrouper globalement ce qui est différent de soi.
Mais c'est une espèce de bilan.
C'est-à-dire que moi, j'ai presque envie de voir maintenant la série qui raconte comment Michaela Coel est allée pitcher ça à des chaînes. Alors, mais en fait, ce que je vais faire, c'est une série où je vais quand même raconter un événement hyper traumatique et par la suite, d'autres événements hyper traumatiques. On ne va pas rigoler tout le temps, ça va être 26 minutes et 12 épisodes.
Bah, ouais. Et ça parlera c'est de la dingue, jeunesse hein. milléniale et un personnage qui n'est même pas forcément toujours aimable.
Non,
le
personnage est très dur. Extrêmement complexe. Et l'histoire de délire sur les réseaux sociaux est prodigieuse, mais dingue, et dont elle revient complètement. Ouais. Et tout ça, c'est hyper touchant, hyper beau.
Parce qu'elle est pile dans l'époque aussi. Il y a quelque chose de très fort dans cette série, c'est qu'on a raconté toute sa dimension politique, sa dimension sociale, mais il y a aussi une dimension presque d'instant T. Ouais. C'est-à-dire que si on prend le premier épisode, et Camille, vous parliez de kiff total, ce premier épisode qui décrit une espèce d'influenceuse, on ne sait pas très bien ce qu'elle est, tout d'un coup, on a envie de la détester dans un premier abord, parce qu'elle incarne tout ce qu'on n'aime pas dans l'époque. Et finalement, elle arrive à décomposer ça aussi, la place de l'ego. Oui. C'est-à-dire comment notre ego, il est au centre de tout, il est moteur de tout. Exactement. Et comment notre ego devient une sorte de bouclier aussi pour survivre. Parce que si elle survit à tout ça, c'est un personnage qui est très puissant en termes d'ego, qui veut se... Enfin, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est une sorte de guerrière de l'ego. Elle a un truc où il lui arrive un drame et elle remonte au créneau. Et ça, on avait ça aussi quelque part avec le personnage de Fleabag, c'est-à-dire ce personnage dont l'ironie...
Qui était hyper antipathique dans la première saison, d'ailleurs, en fait. Mmh. C'est marrant. Mmh. Qui avait vraiment un truc, effectivement... Mais qui pensait que son destin... Enfin, qui allait vers un destin, en fait. Ouais. Il y a un truc comme ça.
Et on peut pas trop...
qu'on a le droit, maintenant, surtout, en fait, pendant très longtemps... Enfin, pardon, hein, c'est pas le moment où le point levé, etc. Mais pendant très longtemps, les héroïnes mal aimables...
Non.
Ah non, ce n'est pas autorisé, ça n'existe pas. Voilà. Les femmes sont des fleurs.
Ouais,
Vous n'êtes pas des fleurs.
Voilà, avec des épines. Oh. Bien attention.
On peut pas trop le dire parce que si les gens n'ont pas vu Fleabag, mais moi, le dernier plan de la saison 2 de Fleabag, pour moi, c'est une déclaration d'intention. C'est-à-dire que vraiment, ce dernier plan qui voit un personnage s'éloigner et nous refuser notre place, c'est vraiment quelque chose qui dit on va arrêter les petits mécanismes de cynisme, on va arrêter tout ce qui vous a donné l'idée que c'était pas si grave, on va aller directement au cœur du sujet. Et évidemment que Fleabag saison 2 vous brise le cœur, c'est vraiment. I'm in love to you, it will pass. Hein, voilà, c'est vraiment un truc terrible. Mais Fleabag avait vraiment lancé ça, et j'ai l'impression qu'I May Destroy You prend le chemin suivant. C'est comme si elle s'était passée de relais.
Oui, et puis après, dans I May Destroy You, en plus, il y a cette volonté d'intégrer tous les à côté, tous les gens à hors normes, etc. Mais en fait, c'est tellement bien intégré, c'est tellement génial, ce parti pris de base de dire « Mais quoi ? Mais quoi ? Dans une série, quoi ? Il peut y avoir... » Déjà, s'il y a un trans, on est là genre « Waouh !» Mais attends, mais moi, c'est bien simple,
c'est
les gars.
Déjà.
Non, mais c'est génial. C'est-à-dire qu'elle a dit « Mais moi, je vais mettre tous les gens que j'ai envie de mettre, tous les gens que je connais. » Mais même, en fait, elle fait fiction, elle fait une autre... Elle construit une réalité qui lui plaît.
Ouais.
En fait, elle construit, c'est performatif pour moi, I May Destroy You. Elle décide par la fiction de construire un Londres où on ne croise que des blacks ultra cool, des trans, et néanmoins et par ailleurs, la violence est partout, la violence de la société, le capitalisme extrême des réseaux sociaux, des machins. Donc c'est pas du tout, c'est extrêmement cruel, mais elle assume un truc incroyable de créer l'univers qu'elle souhaite.
Elle dit merde au naturalisme, en fait.
Complètement.
En disant, j'ai pas besoin de faire effet de vrai. Ce qu'elle raconte est suffisamment vrai.
Duras et merde au naturalisme dans la même émission. Renan Crow, je crois que là, on est...
Je vais me rerouter.
Tous mes amis d'Hippocane Cagne...
Je dis merde au naturalisme, ce sera mon combat de 2021.
En tout cas, vous l'aurez compris, I May Destroy You, série de l'année.
Série de l'année,
c'est à rattraper sur OCS pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et si je vous demande à brûle pour point, car c'est la dernière émission de l'année, votre top 3, on a compris I May Destroy You en 1, et rapidement.
Moi, mon top 3... Moi,
explosé cette année.
Unbelievable.
Ah, pareil.
J'ai failli le choisir pour aujourd'hui, je ne savais pas.
Avec l'extraordinaire Merritt Weaver.
Incroyable, c'est notre passion absolue. Et
Tony Collette, magnifique aussi.
Et après, toi, tu dirais quoi entre
Hollywood de Ryan Murphy sur formidable déconstruction de Hollywood. Alors pareil, ce qui est génial, c'est que Ryan Murphy, il invente un Hollywood qui n'existe pas. C'est le portrait ça se passe à Hollywood à la fin des années 40, et c'est l'histoire d'un film qui n'existe pas, où un réalisateur veut qu'une actrice noire soit au centre du film. Et donc, tout d'un coup, Ryan Murphy dit « Et si ça avait existé ?» Et en parallèle, il raconte l'histoire d'un jeune acteur qui va devenir Rock Hudson, et donc il raconte comment Hollywood va cacher son homosexualité, et si tout d'un coup, Rock Hudson avait pu être ouvertement gay et acteur à Hollywood.
Magnifique.
Et c'est ce que raconte... L'aspect performatif, ça, c'est très fort, c'est exactement ça. C'est que tout d'un coup, Ryan Murphy dit... Et si on invente un Hollywood, et si on change l'histoire et on raconte un autre Hollywood, qu'est-ce qui se serait passé? Et évidemment, c'est un scud direct à Hollywood aujourd'hui, parce qu'il dit, il montre, regardez, en 1940, ça n'est pas arrivé, mais ça n'est toujours pas arrivé aussi. Et qu'une actrice noire au centre d'un film, un grand film hollywoodien, c'est encore trop rare à Hollywood. Les acteurs homosexuels dans le placard, il y en a encore beaucoup trop à Hollywood. Et c'est ce qu'il décrit. C'est vraiment une série, c'est une mini-série. Alors, ils ont annoncé qu'il y aurait une saison 2, une anthologie. C'est vraiment un geste, vraiment un geste de fiction très, très fort et grand l'aspect performatif.
Moi, je rejoins Camille sur Unbelievable et je remets Watchmen, parce que comme il n'a pas été récompensé l'année d'avant, on le remet à chaque fois.
Vous avez vu Watchmen, Camille ?
Non, oh là là, comme quoi,
je
suis contente parce que comme je vois tout récemment, j'ai des petites lacunes à rattraper.
Et la dernière saison de RuPaul, parce que ça ne fait jamais de mal à personne. Et La Flamme, évidemment, pour
la
ceux flamme, qui n'ont pas
évidemment.
Vu quand même.
Alors, La Flamme, c'est l'éclat de rire de cette année.
C'est une usine à répliques. Non, mais en fait, ça en dit long sur la qualité et la réussite de la série.
Vous avez senti qu'il y avait un effet flamme, Camille ?
Ouais, franchement. J'ai été hyper étonnée, mais non, mais c'est hyper drôle. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, l'autre jour, j'étais avec mon amie Camille. On était dans la rue et il y a deux mecs qui arrivent.
Ah ouais.
Mais vraiment, c'était genre, non, attends, mais Chatel et Connasse, elles se connaissent. D'un coup, on a vu genre, ah, c'est cool.
Eh ben, on veut ce duo au cinéma, Châtelleré et Connasse.
Ok, c'est vraiment sympa.
En enquête.
Donc, ça, c'était vraiment drôle. Mais Châtelleré, oui, a beaucoup marqué les gens.
Surtout ce costume de l'agent Gill. On en parle, ce costume de l'agent Gill, qui est mythique.
Mais la scène de l'hôpital avec les enfants.
Giant Vagina. Ouais, je suis très, très content.
Mais alors, comment est-ce qu'on remet en question sa carrière d'actrice quand on passe sa journée déguisée en grosse chatte?
Moi, c'est ma passion, des trucs comme ça. C'est hyper drôle d'aller flirter avec le bord, quoi.
Oui.
Le bord du possible, en fait. C'est quand même ça qui est hyper marrant. Et puis, moi, j'aime le burlesque.
Ah oui, bah là, on y
est. Et je suis, alors, pour le coup, c'est ça qui est génial, je suis incapable de le pondre en tant qu'artiste, auteur. Enfin, je suis incapable. Moi, je suis... j'adore le réalisme très cru, enfin, l'humour qui traite de la réalité la plus... voilà. Et comme je disais, les coulisses et tout ça. Et du coup, j'adore être invitée sur des projets burlesques parce que c'est ma passion, mais je ne sais pas le faire. Ouais.
Peut-être il est temps de révéler un secret. Vous êtes donc floutée durant toute la série. Qu'est-ce que vous portiez vraiment en dessous?
Un petit string shirt, très très mignon.
Ah oui, donc en plus, vraiment, je pensais
petit
que tout...
string shirt.
D'accord, ah oui, donc vraiment...
Voilà, sinon,
vous avez...
non, vraiment... les couleurs.
Ah ouais,
Et puis même. J'étais vraiment en cul pendant tout le truc, parce que pour le coup...
c'est sympa comme rôle.
Non, mais c'était absurde, parce que j'avais que des costumes hyper drôles, où on voyait effectivement à chaque fois le devant et le derrière, qui étaient découpés dans des costumes hyper chiadés, mais genre où c'était découpé. Au niveau, je dirais, génital et fessier. Et vraiment, mais j'étais en cul toute la journée. Quoi. C'était absurde. J'oubliais complètement au bout d'un moment. J'étais la tabane club, machin, les gens. Ok, donc l'autre, elle est...
Et si Jonathan Cohen vous invite pour une saison 2?
Alors, en fait, la saison 2, ce sera des hommes.
Oui, mais et si vous étiez la bachelorette?
Ah, je pourrais pas refuser, bien sûr.
Ce serait malheureusement tellement
bien. On en veut. Ceci est une demande officielle. Cher Jonathan Cohen, j'ai été sage cette année.
Est-ce que Châtelleré peut être la bachelorette? Et est-ce que parmi les bachelors, il peut y avoir Docteur Juif?
Docteur
Juif. Bien sûr, tout était magnifique.
On l'aime énormément.
Bon, j'espère que vous qui nous écoutez avez tout noté. Toutes les recos de l'année. Bon, I May Destroy You, La Flamme, Unbelievable, Hollywood. RuPaul's Drag Race.
Et c'est la passion de Charline. Elle a découvert le drag queen.
Non, mais c'est ma passion. Je regardais avec ma fille, on adore ça.
Ma fille
fait des drop dead dans les soirées maintenant.
Ah, c'est super. J'ai un pote qui crée une série là sur les drags.
Ah,
trop
bien.
Française sur les drags.
Génial.
Et sur les séries, on a pas une petite actu qui va arriver, une création en ce moment?
On a une création parce qu'on écrit à trois une série pour Canal sur les rallyes. Les rallyes mondains, désolé.
Rock'n'roll, Manivelle et tout ça.
Manivelle. Petit canapé, champagne pour des gens qui n'ont même pas l'âge de se moucher. seul. Donc voilà, et donc on écrit une série là-dessus, un peu sur tout ce milieu et tout sur cet écosystème.
C'est en écriture donc.
Et c'est en écriture, ça avance bien.
Chouette, on a hâte. Vivement 2021.
Qu'on puisse en parler.
Évidemment.
Et en dire le plus grand bien.
Évidemment.
Sauf toi, méchant. Non, je rigole. Vous avez donc toutes vos recommandations. N'hésitez pas à vous manifester. Donnez votre avis sur I May Destroy You et sur tout le reste sur le compte Insta de We Love Cinéma FR. Ruez-vous dans les salles dès que possible, les salles de théâtre, et allez voir. C'est un conseil d'amis.
Un
injonction.
Des meilleurs spectacles de l'année. On a
voilà,
adoré.
C'est au Grand Saint-Martin du 28 au 31.
Il y a la réplique la plus drôle de l'année avec un anulingus. J'en en dirai pas plus. Ça m'a fait tellement rire.
Il y a plusieurs répliques.
Le mot anulingus est prononcé dans le spectacle.
Et avec une actrice célèbre à côté. Et ça m'a beaucoup fait rire.
Absolument. Si vous voulez vraiment terminer l'année avec un anulingus, c'est au Grand Saint-Martin.
Alors écoutez, je crois que je ne peux pas toper cette, cette fin à base d'anulingus. Vous pouvez évidemment réécouter l'émission sur We Love Cinéma et sur tous les agrégateurs de podcasts.
Merci Charline.
C'est toi, merci. Merci Camille.
Merci beaucoup. Au revoir.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.